Patrick. Oui, Sylvie.
Oui, mais merci pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant, c'est un survol critique très intéressant. Et j'ai particulièrement aimé la référence à la fin à temps mort, parce oui. que c'est une série que je connais, qui est très intéressante. Et je repensais en fait à la table ronde d'hier sur oui. Les spécificités de ce qui se fait du côté francophone. Et je ne sais pas si tu as envie d'en parler un peu plus, mais la spécificité de temps mort m'apparaît comme évidente par rapport à ce qui se fait sur le sujet, ce qui pourrait se faire dans d'autres domaines.
Tout à fait. On pourrait parler longtemps de temps mort, hein, parce que c'est vraiment au niveau de l'approche créatrice, c'est vraiment quelque chose de novateur, c'est quelque chose, en fait, d'un peu inattendu, hein, quand... Piccoli a commenté, je pense que lui-même a été surpris de la bonne réception tout de suite que cette série a rencontrée. C'est très novateur sur cette interaction entre la narration telle qu'on trouve dans des histoires, c'est pas très loin, des récits qu'on peut lire, en même temps le format court, la contrainte temporelle, surtout dans la première saison où chaque épisode est très court, des épisodes de 3 minutes et des épisodes de 6 minutes. Et cette façon de poursuivre la narration dans le générique. Alors, il faut porter attention au générique parce qu'il y a des dessins du journal de Joël qui racontent, par exemple, font allusion à la façon dont il remplissait certaines de ses journées vides, hein, le dimanche, ça fait. Mais oui, moi je trouve que c'est une réussite, une série très, 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 très réussie. Et là, ben, le déjeuner a été productif parce qu'on m'a parlé aussi des visiteurs du futur, une web série française que je vais aller voir maintenant pour compléter. Donc, quand je disais tout à l'heure d'ailleurs que le corpus était d'une étendue vertigineuse, chaque jour j'ajoute de nouvelles références.
Tout d'abord, merci pour votre communication, parce que comme nous savons que dans un mois nous vivrons la post-apocalypse, puisque le 21 décembre, c'est la fin du monde, donc merci, ça nous permet de nous préparer.
Et j'ai pensé.
Voilà, et puis alors vous parliez de l'étendue immense du corpus post-apocalyptique, et donc en fait, moi, vous répondez peut-être un tout petit peu par avance à la double question que j'ai. D'une part, dans ce que vous nous avez exposé, vous n'avez pas abordé du tout toutes les post-apocalypses de ce que j'appellerais la littérature de science-fiction populaire. Hein, le nombre de romans qu'il y a eu au Fleuve Noir en anticipation et puis dans les petits fascicules, etc. Donc ça, vous ne l'avez pas abordé du tout. Vous n'avez pris que ce que j'appellerais peut-être la science-fiction un petit peu plus littéraire. Et puis, le second point que vous n'avez pas abordé, mais c'était peut-être à dessein vu l'étendue, c'est vous n'avez abordé que les post-apocalypses de notre civilisation, vous n'avez pas abordé toute la littérature de science-fiction des post-apocalypses de civilisations autres. Je pense à tout ce qu'il y a eu, par exemple, où on nous parle des survivants de l'Atlantide qui rentrent dans la science-fiction, les survivants aussi après l'effondrement d'un empire interplanétaire ou intergalactique, etc. Donc j'aurais voulu savoir si ça c'était à dessein ou...
C'est-à-dire il a fallu que je fasse des choix, forcément. Les post-apocalypses, plutôt issus du champ littéraire, mais c'est le champ d'où je suis moi-même issu, hein. J'en arrive à la science-fiction après avoir été longtemps à travailler plutôt spécifiquement sur la littérature dans d'autres optiques. Oui, ben écoutez, je ne peux pas être en désaccord avec vous parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Des choses dont j'aurais aimé parler aussi. Mais c'est pour ça que j'ai voulu parler en termes de texte phare, ce que j'ai appelé les classiques. Hein. Je me suis dit, tiens, on va ouvrir le débat sur la notion de classique, ça n'a pas eu lieu. C'était surtout dans l'optique des textes qui ont eu beaucoup de retentissement et qui sont peut-être au niveau de la recherche de spécificité. Parce que mon argument principal, c'était un contre-argument devant l'ampleur, l'importance du domaine anglo-saxon, parce que les Américains et les Anglais particulièrement, on pourrait penser aux Australiens aussi avec Neville Shot, sur le dernier rivage. Mais c'est une grande spécialité anglo-saxonne, et pourtant, la part francophone est au moins aussi significative. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aller peut-être, je ne sais pas si on pourrait parler de canon post-apocalyptique, ce serait à faire, mais il y a évidemment un travail colossal à faire, ne serait-ce que pour faire l'histoire de ces textes-là, un travail que je n'ai pas encore fait, que je ferai peut-être si j'ai le temps, s'il y a une vie après le 21 décembre 2012, parce que d'ici là, je n'aurai pas le temps. Et dans l'optique où ce travail, où je ferai ce travail, c'est bien évident que j'accorderai une importance à ce que vous avez appelé la post-apocalypse populaire. Oui, c'est clair que c'est important aussi. Mais en même temps, et c'est peut-être la dimension littéraire, c'est que devant l'étendue du corpus, on en arrive à une inévitable hiérarchie de valeurs, c'est-à-dire tous les textes, c'est ce que j'avais résumé en disant, ce ne sont pas tous des textes de la qualité de la route. Donc, à partir du moment où on peut aller chercher des éléments d'analyse, enfin, je n'ai pas fait d'analyse textuelle non plus, et où on peut apporter, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est la narratologie appliquée au texte, ben, là, on va voir que des textes qui sont plus intéressants que d'autres, déjà au niveau de la mise en forme de l'apocalypse.
Dernière question.
Donc, merci pour l'éventail ouvert par votre communication. Alors, on a parlé un petit peu d'hybridation hier, aussi aujourd'hui d'ailleurs. Ce qui m'a intéressé, c'est lorsque vous avez présenté les villes ruinées par un événement apocalyptique. Et est-ce qu'il y a, ou est-ce que vous avez déjà pu réfléchir à la liaison qu'il peut y avoir avec les peintures d'Hubert Robert des 8e siècle? Et est-ce qu'il y a un lien possible donc avec ce phénomène?
Oui, et peut-être même Hubert Robert, ou la peinture romantique en général, dans ce qu'elle a focalisé sur les ruines. Et là, ici, avec le topic de la ruine du présent, c'est vraiment... disons que c'est ce que j'ai souhaité évoquer en parlant de ce que j'avais appelé les vertus graphiques de la fin du monde. C'est que, il me semble, à mon avis, c'est un univers narratif dans lequel on peut parler des textes, des œuvres comme telles, mais aussi de ce qui les entoure au niveau de l'activité d'illustration. Alors, je ne dirais pas, existe-t-il un art post-apocalyptique? Sans doute. En tout cas, les pochettes, en tout cas, moi parfois je vois une autre édition d'un bouquin que je possède déjà, et juste parce que la couverture est belle, j'ai envie de le racheter. Le symbole spatial, la ruine, que ce soit l'architecture, la cité fantôme, moi je trouve que ça fait comme une narration parallèle, ou en tout cas ce que j'avais référé à une catégorie de Jeannette, la pause, pour parler la pause narrative post-apocalyptique. Moi je crois que c'est quelque chose de fondamental dans ce campus-là. Donc oui, et moi j'irais jusqu'à dire qu'il y a un sublime post-apocalyptique, pour revenir à Hubert Robert et à toute la traduction picturale de la ruine. Moi, à mon avis, il y a un sublime post-apocalyptique qui est maintenant.
Merci Patrick. Bien, Simon, vous en...